Avec Marceau et Audrey Pinchot. Un Marceau tout seul, c'est correct. Open mic, open mic. Un Marceau bien accompagné, c'est tellement mieux.
Ah, il y a des jours comme ça où j'ai l'impression de travailler dans un hôpital psychiatrique.
Tous ouais. Les jours, pour ma part.
C'est-tu moi le dirigeant?
Assurément, tu fais partie du staff des maîtres.
Ah ouais.
Qui ont des problèmes peut-être au deuxième étage.
OK. Fait que c'est les fous qui ont pris le contrôle de l'asile.
100%.
Ah, peut-être, ça se peut. Lâchez-vous, mariez-vous. Toi puis Reg, c'est toujours des colleux chaque matin. Qu'est-ce
qui
se passe?
Tous les matins.
Est-ce quelque chose qu'on ne sait pas, qu'on devrait apprendre?
Non, Reg fait les meilleurs colleux.
Tu viens de t'acheter une maison, fais attention.
Oui, mais mon chum connaît bien Reg, puis si tout ça est accepté, c'est consentant. Là.
Oui.
Oui, j'ai demandé la permission, tout est beau. Non, mais Reg est tellement grand.
Ouais.
Reg est fucking beau, puis Reg est vraiment grand. Fait que Reg, quand tu le rencontres, tout ce que tu veux faire, c'est faire un hug.
Un hug.
Puis il donne les meilleurs hugs. Mais Reg, il fait sa tournée le matin.
Mais c'est vrai qu'il est plus grand que la moyenne, ça fait en sorte que toi, comme t'es grande,
c'est plus sécurisant.
Un gars comme ça. Est-ce que t'aurais sorti avec un nain? Mettons, genre 4 et 11.
Mais là, tu vas m'obliger à... la réponse, c'est non. Mais c'est pas par jugement de grandeur, plus que... Je pense... Tu sais, je suis simple et dit... Non, mais attends.
S'en est. Puis sais quoi? T'as le droit.
Non, mais attends.
J'ai jamais eu de blonde dans la vie. J'ai jamais eu de blonde avec les cheveux blonds. J'ai-tu le droit de le dire?
100%. Parfait. Non, mais c'est parce que souvent, c'est quelque chose qui est reproché des hommes aux femmes. Vous avez des grands standards,
vous
voulez pas de gars en bas de... Oui, mais moi, j'ai pas ça. Sauf qu'il y a une chose, par exemple. Tu sais, moi, mon chum est la même grandeur que moi, là. Puis je te dis que je pense que ce qui fait que je l'ai choisi, c'est qu'il aime ça quand je porte des talons hauts. Parce que j'ai toujours été avec des gars qui voulaient pas que je porte de talons pour pas y dépasser.
Ouais.
Parce que je suis une grande femme. Puis, je veux dire, en plus d'être grande, tu sais, j'ai les épaules carrées, tu comprends? Puis on dirait que je pense que c'est par sentiment de sécurité
t'es
que je sortirais pas avec quelqu'un.
T'es comme un joueur de ligne du Rouge et Or, mettons. Défensive. Là. Ou offensive.
Je sais pas si c'est un compliment ce que tu me dis là.
Ben, t'as dit que tes épaules larges.
Oui, non, mais dans le sens que je suis pas faite sur un frame de chat.
Ben,
moi, même si je pesais 120 livres tout mouillé, j'aurais quand même les épaules, tu comprends, bien carrées.
Ouais,
fait qu'on dirait que par sentiment de joueur du Rouge et Or. Oui, Yann. On dirait que d'être avec un 4 pieds 11, c'est juste que j'aurais l'impression que c'est moi qui le protège. Tu comprends?
Oui, je comprends.
J'aurais pas ce sentiment-là de pouvoir m'enfouir dans ses bras puis de me sentir petite, tu sais. Fait que je pense que c'est pour ça que j'accepterais
Est-ce
pas.
Est-ce que les gars ont le droit de préférer les femmes qui sont plus petites qu'elles? Que qu'eux, en fait?
Ben oui.
Bon, fait que toi, t'as le droit de dire que tu devrais pas être avec un gars plus petit. Moi, je pense que les standards, là, si on a des standards, puis s'il y a des choses qu'on peut dire, faut que ça soit égal des deux bords.
Oui, non, mais t'as raison. Sauf que je pense que demain matin, je rencontrerai un gars, tu comprends, qui est un pouce de moins que moi, là. Je serais pas à la fin du monde. Là.
Non, des fois, un pouce, ça fait la différence.
T'as raison. À certains endroits, je suis d'accord avec toi, mais mettons un pouce de tête, je serais pas à la fin du monde si le gars me fait sentir bien spécial, tu comprends, puis quand on est couché ensemble, je suis bien.
Ouais. C'est sûr que rendu à l'horizontale, ça paraît plus bien.
Ben non, mais c'est ça, là.
Quoi que 4 et 11, puis 6 pieds,
ben, il y a comme une bonne différence.
Vous ne quand même pas vous rejoindre.
C'est là le problème, c'est ça. T'sais, au niveau de la connexion, mettons, là, c'est mon enjeu. là. C'est ça. Fait que non, pour répondre à ta question, bien justifié, je ne sortirai pas avec un 4 et 11.
Ça. Moi, j'ai une bulle. Fait que j'en fais pas de colleux.
C'est pas de câlin.
Je fais des colleux à des gens qui sont très près de moi. Mais des collègues de travail, je pense que c'est jamais arrivé, à moins que la personne m'oblige à le faire.
Nous, c'est arrivé une fois, mais c'est un semblant de colleux, puis c'est quand on a reçu nos chiffres.
Mais tu m'as obligé à le faire. T'es venu vers moi, puis là, je me suis dit, ça n'a pas de bon sens si je me tasse par rentrer dans le
non,
mur.
Effectivement.
Fait que j'ai pas eu le choix.
Mais c'est vrai que t'as vraiment une bulle.
Ouais.
Parce que c'est comme un genre de câlin où tu te touches pas vraiment, puis tu tapotes le dos juste pour dire que, comme bon,
puis avec mes proches, c'est tout à fait le contraire. C'est moi qui l'attache à mort.
Ouais. Oh, ouais, c'est spécial.
Mes gars, quand ils passent, là, puis j'ai une rage, là, j'en pogne un, là, puis il les peut pas
dose d'amour.
Ouais. Puis là, ils essayent le plus possible de me repousser. Puis là, je continue à y sentir les cheveux. Ça fait un peu bizarre à dire ça, mais c'est ça.
Mon père faisait ça quand j'étais petit.
Ben,
ça
l'odeur
tapait
de nos
ses
enfants.
Nerfs, là.
Oui, mais l'odeur de nos enfants, il n'y a rien qui va il remplacer ça sur Terre. C'est l'odeur le plus réconfortant de la Terre. Puis c'est
mais
ça.
C'est weird.
Oui, à un moment donné, un mec qui a 12, 13, 14 ans, là, il va commencer à vouloir me fesser avec un coup de batte de baseball d'en face. Là. Mais pour l'instant, ils ne sont pas encore assez forts pour me séparer quand je décide d'écoller.
Mais mon papa fait encore ça. Quand, mettons, on se dit bye, là, puis on sait qu'on ne se reverra pas avant une couple de semaines, là, quand il est plus grand que moi, quand il me fait une colle puis qu'on se dit bye, il va me sniffer les cheveux avant que je parte.
Ça a l'air bizarre à
c'est
dire.
C'est vraiment weird.
Mais en tant que parent, on le fait tout. Puis toi aussi, tu vas le faire. Mais peut-être tes enfants, tes bébés, là, tu sais, quand tu viens de laver ton bébé, puis il est couché à côté de toi, puis là,
ça
tu chantes
bon
des chansons
bébé.
Pour l'endormir. tu sens ça.
J'ai hâte.
Tu t'endors souvent bien avant lui à cause de ça. Sûr. Je ne sais pas pourquoi on fait ça. C'est peut-être...
C'est de l'amour.
C'est peut-être animal.
Mais c'est spécial que tu aies une grosse bulle de main. Mais en même temps, je peux pas juger. Mais moi, tu vois, tout ce qui est câlin, je sais pas, j'aime fort. Puis tu sais que c'est prouvé par des études, hein, qu'un câlin doit durer, je pense que c'est 12 secondes, si je me trompe pas, 8 ou 12 secondes pour que ton cerveau sente les bienfaits puis que ça dégage une genre de sérotonine. Là.
Ouais. Moi, quand c'est des collègues, là, rendus à 3-4 secondes,
ton malaise
là,
est grand.
Tant que tu décolles.
Tu sais que j'ai une photo de toi puis moi. Ou pour les médias sociaux, je t'avais pris par en arrière en collant. Je suis tombée de ça en fin de semaine.
Ouais.
T'as l'air, là, malheureux, Yann.
Ah oui.
Moi, je suis tout sourire, là. Tu comprends? Super contente. On prend notre première photo ensemble.
Ah oui.
T'as l'air malheureux.
Puis je sais pas pourquoi. Peut-être que les auditeurs ont la réponse ou est-ce qu'ils sont comme moi aussi, là, 418-971-1021. Mais j'ai jamais eu de relation sexuelle avec mes collègues de travail.
Ce qui est une bonne chose.
Ce qui est assez rare.
Ça? Je trouve ça spécial.
Ce qui est assez rare en radio.
Ben oui, c'est ça j'allais dire. Ça fait longtemps que tu fais de la radio, il me semble. Oui. Je doute de ton affirmation.
Oui, tout le monde doute, mais j'ai été en couple pendant 16 ans.
Ah, bon.
Après ça, j'ai été en couple pendant 5 ans, puis il y a eu comme...
T'as toujours été fidèle?
6 mois entre les deux. Ben, techniquement, oui, là.
Okay.
Dans les rêves, ça compte-tu?
Ah, ben là, ça regarde toi puis ton ex-conjoint.
On
là,
contrôle pas nos rêves.
Ouais, c'est ça.
Mais c'est ça qu'on a dit hier. Mais, mais oui, c'est ça. J'ai jamais été avec mes collègues de travail. Fait qu'on dirait que j'ai une proximité avec certains collègues de travail. Mais de là à faire des colleux, je sais pas. Je pense pas. Ça m'arrivera jamais.
Mais c'est correct. Il n'y a pas de justification à y avoir. Il y a juste du monde qui ont des bulles. Puis quand je suis obligée, je vais leur tenir. Je te collerai plus jamais, Yann. Je vais garder un 2 mètres de distance entre toi et moi. Je te le promets.
Quel message est clair. Roger qui écrit « Salut Yann, mon gars, 29 ans, il a l'air de plus en plus viking que moi, mais on se fait souvent des gros hugs. » Avec nos enfants,
oui.
C'est comme ça.
Ouais. Puis le pire, c'est que je dis ça, mais je veux dire, j'ai une bulle avec certaines personnes. Là. Je rencontre pas quelqu'un dans la vie puis j'ai le goût de lui donner un câlin. Là. C'est pas ça. Là. Mais on dirait que quand...
Denis, tu fais-tu des câlins?
Oui. Ah oui, oui. Donne-moi puis Véro, là, on s'aime fort. Là. Quand on décide qu'on s'aime puis qu'on est nostalgique, qu'on
Max.
Est donc bien content de travailler ensemble, oui, Max, c'est un de mes meilleurs amis, oui,
Jeff.
Absolument. Jeff, on se colle pas beaucoup. Jeff, ça va arriver là, dans des occasions, mettons, pour se dire allô, oui, on va se faire une colle, mais c'est une colle comme ça amicale.
Fait que finalement, t'es ramasse tout sauf moi.
Ben oui, là, tu veux pas. Je respecte. Exact. Au moins, je suis une personne respectueuse.
Et moi, je suis différent.
Mais celui que je colle le plus, c'est définitivement Rich.
À chaque matin, parce qu'on se croise.
Absolument.
Hey, j'ai plein de questions à te poser. Je sais que tu fais des lives là, pour l'entreprise Viva, puis
oui.
Je suis pas payé pour vous parler de ça. Moi, j'ai reçu
Viva.
Une des propriétaires de clinique Viva que j'ai adoré.
Cécile, ouais.
C'est pas le genre de sujet, moi, l'esthétique. Là, je parle. Tu regardez-moi aller. Là.
Mais ça a l'air moins boys
parle
que.
Pas nécessairement ouais. De ça. Mais quand j'ai parlé de détatouage.
C'est
avec
fascinant.
Elle, avec Cécile.
Cécile, oui.
Quand j'ai parlé de détatouage avec Cécile, le nombre de courriels que j'ai, pas de courriels, mais de textos que j'ai reçus, le nombre de messengers que j'ai reçus, des questions que les gars avaient posées sur hey, « Est-ce possible de se faire détatouer? Ça fait-tu mal?
Oui.
Combien ça coûte? Ça prend combien de temps? Combien de séances? Combien de temps entre les séances? » Je me suis dit, une personne qui se part en affaires dans le détatouage, là, peut faire la pièce comme pas possible dans les prochaines années.
On est une coupe à regretter.
Parce qu'il y a plein de tatouages qui, effectivement, ont passé date. Là. Tu sais, les fameux dauphins dans le bas du dos, là.
Oui, oh mon Dieu, oui. Ou les papillons.
Tu regardes ces filles-là à cette heure, ça a plus de l'air de des dauphins.
Non, c'est ça, ça a changé de forme un peu avec le temps.
Puis c'est tout à fait normal, soit dit en passant. Tu sais, moi, j'avais des tatouages très jeunes. À 16 ans, je m'étais fait faire les épaules. J'avais des taureaux sur les épaules.
Les deux, as-tu fait couvert ou c'était...
Ils sont encore là.
OK.
Mais c'est la peau fait en sorte que... Puis ça, c'est Jay Marceau, là, qui est mon tatoueur, qui m'a dit ça. La peau s'en va tout le temps par derrière. C'est comme
ouais.
Si elle essayait de rentrer par le trou de pète.
Oui.
C'est pas comme ça qu'il me l'avait dit, mais c'est comme
mais
ça que je l'avais compris.
Ouais.
Ce qui fait en sorte que mes taureaux qui étaient alignés, qui étaient à l'horizontale, qui étaient parfaits, après 20 ans,
soit
Audrey,
plus né-né.
Il était comme Canto 45.
Oui.
Il s'en allait par derrière. Fait que ce que j'ai fait, moi, je me fais toujours tatouer des choses qui sont significatives pour moi, des moments de ma vie ou des pensées que j'ai eues qui sont encore bel et bien présentes, ces pensées-là. Puis c'est significatif.
Ouais.
Mais mes taureaux, ça ne l'était pas tant. Je trouvais ça hot. J'aimais ça. J'avais vu ça dans un film, un gars qui avait un taureau sur l'épaule. Je trouvais ça nice. Fait qu'à 16 ans, je m'étais fait faire, mettons 15 ans et demi, je m'étais fait faire mes premiers tatous par un gars qui commençait à faire des tatouages dans la vie. Puis ça avait pas coûté cher, mais ça valait pas cher non plus.
Ouais, c'est ça, là. Ça vient avec, hein?
Ça vient avec. Puis après ça, ben, j'ai rencontré Jay Marceau, qui est un artiste incroyable, qui est un des meilleurs coloristes en passant. Pour ceux qui ont des projets, là, prenez-vous de bonheur, parce que des fois, c'est un an et demi d'attente. Là. Mais pour ceux qui ont des gros projets avec de la couleur, c'est Jay Marceau qui est le meilleur à mes yeux, à la grandeur de la province de Québec. Et là, lui, il m'a tout rafistolé ça en intégrant mes taureaux, mais ça ressemble plus à ça. Là. Je veux dire, si tu regardes, tu sais, j'ai plus rien, là.
Il les a ramanchés,
puis ça a plus de l'air de ce que ça avait de l'air quand j'avais 16 ans. Est-ce que c'est mieux? Moi, j'aurais peut-être utilisé l'option des tatouages un peu avant.
Ouais.
Mais je trouve ça super bien ce qu'il a réussi à faire. Mais aujourd'hui, je suis très heureux des tatouages que j'ai sur le corps. Mais combien de filles que j'ai rencontrées qui m'ont dit, tu sais, les dauphins dans le bas du dos ou ben mon petit papillon dans le bas du
dos. M'en débarrasserai.
J'aimerais ça m'en débarrasser. Ouais. Ben quand j'ai parlé à Cécile, elle m'a dit que c'est maintenant possible. Les technologies se sont améliorées. Ben oui, ça pique. Ben oui, ça peut
parce
faire...
que c'est au laser, là.
Ça peut faire un peu mal.
C'est des pigments, dans le fond.
Mais ce sera jamais aussi intense que quand vous vous êtes fait tatouer la première fois. Mm. Il y a des endroits où c'est un peu plus difficile de se faire tatouer, là, tu sais, juste où les côtes.
Ah, oh, ça fait mal.
J'ai un
oui.
des tatouages, moi, qui est fait à la hauteur des côtes, puis t'as l'impression que ton tatoueur, il prend un couteau, il te rentre ça dans les côtes, puis il tourne.
Moi, le premier, je l'ai fait là, puis oui, c'est assez sensible.
Là, à un moment donné, tu dis, tu penses-tu que t'es rendu comme proche de mon rein? Il dit non, je suis encore juste au début.
Surface. Oh, okay, génial.
Je suis encore juste au début. Mais il y a un article dans le 24 heures qui parle justement de l'effaçage des tatous qui est de plus en plus populaire. Et ce qu'on nous raconte, c'est qu'il y a énormément de gens qui ont fait l'erreur de se tatouer d'en face.
Oui.
Quand tu étais jeune, ils trouvaient ça hot pour l'époque. C'était nouveau. Tu avais de l'air plus
Post
dur que
Malone,
tu l'étais en réalité.
Jelly Roll.
Post Malone, c'est pas grave. Jelly Roll, c'est pas grave. C'est
non,
des
mais l'inspiration
gens...
pour les jeunes, c'est
oui,
ça que je veux dire.
Je comprends, mais c'est des gens qui travaillent dans l'industrie de la musique puis n'auront jamais vraiment besoin d'avoir l'air hyper propre pour faire le métier qu'ils font.
Mais Kevin, 18 ans, peut-être qu'il va regretter à 26 ans son tatou d'en face pour ressembler à Post Malone.
T'sais, tu vois pas grand banquier avec des visages de, je sais pas moi, de squelette. Là. Mm. Tu comprends?
Oui, non, 100%.
Donc, tu peux faire des
c'est
erreurs.
C'est badass, remarque.
Oui, mais ça n'existe pas.
Je le choisirais comme banquier, moi.
Oui.
Ben oui.
Mais ça n'existe pas.
Mais c'est pas, effectivement, c'est pas...
Il y a énormément de gars et de filles qui s'en vont se faire détatouer le visage. Puis ce que je lisais, puis en jasais avec une des représentantes ici, c'est ça peut être entre 4 et 8 séances.
Ouais.
Plus souvent en 8, là, quand tu as de la couleur, puis ça a été fait très profond là, de ce qu'on m'a expliqué. Mais après ça, t'es clair. Est-ce que ça peut... Il peut y avoir quand même une apparence de tatou qui était là avant? Peut-être, mais pour les filles, vous vous maquillez, vous mettez un peu de poudre, puis après ça,
ça
paraît
fait
plus,
une énorme différence.
Ça paraît plus pantoute. Mais moi, j'ai vu, là, regarde, sur l'article là, du 24 heures, regarde, la fille, elle avait en haut du sourcil, elle avait un gros tatouage. Là, c'était un genre d'écrit Donald Trump au-dessus du tatouage. Puis là, ben, ça l'a fait effacer. Ça paraît pratiquement plus.
Oui. Oh, non, c'est magique ce que ça peut faire. Puis
l'étoile qui était sur le côté de sa tempe ne paraît pratiquement plus non plus, puis elle semble être rendue pas encore au bout du processus du détatouage. Fait que ça fait vraiment une belle job.
Mais c'est fou, les technologies, comment ça évolue. Puis il faut s'entendre que pour n'importe quel traitement que tu vas te faire faire en médico-esthétique ou en esthétique, c'est jamais du 100%, là. Que ce soit, tu comprends, l'épilation laser, c'est jamais du 100%, mais c'est facilement du 95. Puis ce que je trouve le fun avec, tu sais, tu parlais des cliniques Viva, mais souvent les gens vont avoir peur de rentrer dans ces traitements-là parce que ça coûte cher, c'est des sous, veux pas, tu sais, autant que ça te coûte cher de te faire tatouer, bien, te faire enlever l'erreur que t'as faite, ça coûte des sous aussi, mais il y a du financement qui est disponible.
Ouais.
Tu sais, il y a plein de façons de faire avec les cliniques Viva, puis moi, c'est ce que j'apprécie le plus, là.
Dans le cas de cette jeune femme-là, elle est rendue à peu près pour se faire détatouer le projet qu'elle s'était fait elle-même, parce qu'elle avait acheté une machine sur Amazon avec l'encre et tout ça, puis c'est elle qui s'était écrit ses propres lettres dans le front avec la petite étoile sur le bord de la tempe. Son projet va lui avoir coûté en des tatouages à peu près 1 200$.
Ah, tu vois, c'est pas si pire.
C'est pas si pire. Moi, si je me le fais faire sur les épaules, ça risque d'être plus montant pas mal plus élevé que ça, là, dans les milliers de dollars. Mm. Mais pour elle, 1 200$, ça va lui permettre d'oublier ce qu'elle avait d'en face depuis des années et des années.
Là, tu vois, il y a, des gens qui nous écrivent au 88-971-1021. Là. On est une coupe à regretter les tatous. Là. C'est surtout ce que, ce que je remarque. Il a dit « Le tatou s'en vient out. » Il y a des gens qui disent « Le tatou s'en vient out de toute manière, on dirait. » J'observe même beaucoup de tatou shaming envers les femmes particulièrement de plus en plus. C'est peut-être, ça fait peut-être partie des raisons, effectivement, pourquoi il y en a qui veulent se faire des tatoués. Je sais pas. Moi tu vois ça, dans ma tête, ça représente une partie de ma vie. Fait que j'ai pas de malaise, mettons, avec certains tatous que j'ai, parce que je me dis, le moment où je les fais faire, il y avait des raisons précises, il y avait une histoire, moi aussi, ils sont significatifs. Fait que je vois pas le malaise de l'enlever. Mais ouais. Moi, j'ai été bien encadrée à ce niveau-là, mais tu sais, j'ai des amis qui ont des affaires, là, ses pieds, ses cuisses, tu comprends, qu'ils voudraient plus qu'ils paraissent aujourd'hui.
Mais je comprends
là.
Ce que l'auditeur mentionne, parce qu'il y a énormément de gens, puis on les reconnaît beaucoup, ces personnes-là, là, qui se sont fait tatouer parce que c'était l'air du temps, parce que c'était la mode.
Ouais, exact.
Mais si tu y vas comme toi, tu le fais, puis moi aussi, j'ai fait le même processus. C'est si tu y vas avec des endroits significatifs que toi, avec des choses significatives que toi, tu voulais, parce que ça voulait dire quelque chose. Moi, j'ai un phénix sur l'épaule. Le phénix, c'est la renaissance. Ouais. C'est renaître de tes cendres. Mais il y a un moment de ma vie où je me disais, je veux changer de vie, puis je ne sais pas comment faire. Puis ça a pris, j'ai embarqué dans un processus, puis à un moment donné, bien, j'ai réussi à me retransformer. Puis ce phénix-là, chaque fois que je le vois le matin, ça me fait penser à la personne que je suis devenue, puis la personne ancienne que je voulais plus être. T'sais. C'était pas pour être à la mode.
Ouais.
Mais les gars qui se sont fait tatouer les doigts pour être à la mode, les mains, les poignets pour être... Tu sais, la fameuse rose là, sur le poignet. Eux autres, là, la rose était à la mode. Là.
L'infanée un peu. Là.
Mais quand ils vont avoir 70 ans, elle ne sera plus vraiment à mode. Fait que le détatouage peut être une belle opportunité pour eux autres d'enlever ce souvenir-là qu'ils ne veulent plus avoir.
Totalement.
T'sais. Mais ça ne voulait rien dire. Moi, je vais toujours les garder, mes affaires.
Parce qu'il y a une signification.
Parce qu'il y a une signification, puis toi aussi.
Le pire, c'est que pour certaines personnes, c'est de l'or. Tu sais, moi, je connais des gars, tu comprends, qui ont toutes sortes d'affaires de tatouer un peu partout ses bras, là, des casseaux de frites, là, tu comprends, toutes sortes d'affaires qui ont comme pas rapport, mais ça fait partie pour eux d'une identité, d'un style. Il n'y a pas de regret à ce niveau-là. Mais effectivement, qu'il y a une vague où c'est comme les tribales. Les gars, à un moment donné, tout le monde, ça faisait faire la même motadite d'affaires sur les épaules, là, puis sur le chest, puis moi, ça, c'est le genre de tatou que je regretterais, puis je voudrais me faire enlever, là. C'est une époque. C'est marqué dans le temps, puis c'est pas bien, bien significatif.
Tu sais, il y a des femmes qui ont des tatouages sur la poitrine, maintenant.
Ben oui. Oh.
Tu sais, j'ai vu des pattes de chien.
Ah, oh, le cauchemar.
Oui, mais il y a des filles pour qui c'était significatif pour eux, c'était leur chien, mettons, les pattes de leur chien, mais...
Le cauchemar.
Plus tard, tu veux-tu encore ça? Ces filles-là sont peut-être rendues dans le même processus que je te parle. Là. T'as peu, le détatouage, ça existe. Je suis un peu tanné de me faire parler de mes pattes de chien qui ont l'air des pattes d'ours maintenant.
Ouais, c'est ça, des grosses taches sur le côté droit. C'est épouvantable. Il y a quelqu'un qui nous parle des toiles d'araignée, c'est cool.
Oui.
Ça a été bien populaire, ça aussi.
Des auditeurs qui nous écrivent au 418-971-101. Salut, j'ai été préposé aux bénéficiaires. J'avais une collègue de travail qui avait un tatou dans le visage. Et quand elle tentait de faire son travail avec les personnes âgées voulaient absolument rien savoir. Elle se faisait rejeter. Elle avait des difficultés à faire son travail. Ben, la société...
On a évolué, mais c'est vrai.
Les personnes âgées ne sont plus rendues là.
C'est vrai.
Nous autres, on est dedans, puis c'est pas plus grave que ça. Quand on voit des gens tatoués, on l'est pour la plupart nous-mêmes aussi. Je serais curieux de savoir le pourcentage de gens qui sont tatoués dans la société maintenant. Je pense qu'il y en a... Est-ce que c'est plus de 30 %, 40 %?
Bien, la majorité du monde, je te dirais. Moi, j'augmenterais même à 60 %, même si c'est une petite niaiserie sur la cheville, là. Et il y a beaucoup de gens qui, maintenant, ont un petit quelque chose à quelque part. Moi, tu vois, j'ai été chanceuse. Pour une chance, je l'ai écouté pour une fois. Là. Ma mère m'avait bien averti. Tu veux faire à ta tête, tu veux te faire faire des tatous, fine. Mais jure-moi que tu ne les feras pas apparents. Fait que si, justement, il y a du jugement dans un corps d'emploi dans lequel tu veux travailler, tu veux faire de la TV un jour, ou tu veux justement être avocate, ou blablabla, tu sais, tu pourras le faire, puis tu pourras cacher, justement, ces tatouages-là. Fait que moi, ils sont tous subtils. Tu peux même pas savoir que j'en ai si je te le dis pas. Puis aujourd'hui, je suis contente. Parce que j'aimerais pas ça, mettons, il y a certaines idées tatou que j'aurais peut-être pas aimé avoir, là, sous l'avant-bras, tu comprends, ou dans le cou, là. Fait que je suis contente d'avoir écouté ma mère.
T'as-tu du tatouage au laser dans le front?
J'oserai jamais. J'ai vraiment trop peur. J'ai pas de sourcils. Je peux pas me faire tatouer des sourcils. Je vais avoir l'air d'avoir des chenilles en face. Je peux pas faire ça.
Salut, je suis une femme. Je suis bourrée de tatous. J'en ai sur le cou au complet. C'est une forme d'art pour moi. J'en ai que j'aime moins, mais je ne les regrette pas parce qu'ils me rappellent des souvenirs. Ben, c'est ça.
Mais non, mais totalement. Ouais. Mais tu vois, moi, j'en ai un, là, ses côtes, il est rendu lettre. Là. Il est tellement lettre, Yann, ça n'a pas de bon sens. Moi, c'est de l'écriture. L'affaire, c'est que c'est un gars qui fait du réalisme, là, des dessins, qui me le fait. Fait que lui, il n'avait pas les aiguilles assez fines pour me faire ça, mais j'y tenais tellement qu'il le fait pareil. Ça a mal vieilli, là. C'est une grosse tache d'à peu près un doigt de longueur que j'ai en ce moment, ses côtes. Là. C'est pas beau, là. Mais parce qu'à l'époque, il y avait une signification précise, puis je le regrette pas. Mais je veux dire, en maillot l'été, je suis fière de ce tatou-là. Bah! Je suis pas fière.
Mais c'est comme une barre noire, là. C'est le gars qui t'avait trompé, ça?
C'est mon ex qui l'a tatoué. C'est mon ex qui l'a dessiné, en fait. Dieu merci, c'est oui. Moi qui a comme demandé le dessin précis, là.
OK.
Attends, je le sens. Tu vas-tu le voir? Tu le vois-tu?
Ouais.
C'est Authenticity, parce que je trouvais ça plus cool en anglais. C'est mon signe sagittaire, c'est comme une flèche avec une wave là, qui passe à travers le mot.
Ouais.
Puis la vague à la fin, c'est pour d'où je viens, la Côte-Nord.
OK.
Fait que on voit plus vraiment que c'est écrit Authenticity. Puis là, je me suis tirée pour que tu puisses le lire. Là. Mais je veux dire, l'été, mettons un maillot sur une chaise, là. Ouais. Tu remarques pas vraiment ce que c'est, là.
Moi, honnêtement, je regardais ça, je pensais que c'était le monstre Memphremagog qui sortait de la tête
correct, de l'eau. Ça va être correct, là. Ça va être correct. Mais c'est pas mon meilleur. Mais quand ça signifie quelque chose, c'est pas pire.
Il y a un gars à Montréal, je sais pas si tu l'avais vu passer, mais lui, il voulait faire comme le gars qui avait été recruté dans une des vidéos de Madonna. Ça se peut-tu? Il avait
possible.
Il est devenu un top modèle par la suite. Le gars, il avait un tatouage de squelette dans le visage. Malheureusement, ce gars-là est mort aujourd'hui. Là. Je ne sais pas si c'était intentionnel.
Ah, mais c'est-tu le zombie boy? Là,
ouais,
oui.
Ben, il y a un gars qui a tenté de refaire la même chose, mais en mettant du... je pense que c'est Vince Loss, ça se peut-tu?
C'est possible.
Peut-être que tu pourrais le retrouver sur Google. Mais lui, s'était tatoué dans le visage des marques comme Louis Vuitton, Gucci et tout ça. Mais tu as l'impression que le gars s'est fait faire ça au Sharpie.
Oh mon Dieu, OK, fait que c'est lettre, là.
Ben, en fait, pour lui, c'était beau à l'époque. Je sais qu'il a essayé de se faire détatouer, puis ça avait plus ou moins fonctionné parce que c'était beaucoup trop prononcé, ces tatous. Mais est-ce que tu le vois?
J'essaie de le chercher, mais Vince Loss, ça fonctionne pas jusqu'à maintenant. Fait que c'est peut-être pas ça. 88-971-101, si vous savez de qui on parle, peut-être que je l'écris mal. Il y a Nathan qui est sur la ligne. Nate est plein de tatous. Il y en a ses doigts, il y en a un peu partout. Puis je sais qu'il y en a beaucoup à dire sur le sujet si jamais tu veux aller le rejoindre, là, Yann. Là.
Allô, Nathan?
Salut, comment ça va?
Ça va très bien, toi. Tu as énormément de tatous aussi. Y en as-tu que tu t'es fait, que tu veux te faire détatouer?
Ben, il y en a pas que je veux me faire détatouer, mais il y en a auxquels j'ai pensé tatouer. Puis c'est pour ça que j'écrivais à Audrey pour dire ça me parle tellement, votre sujet. Tu parlais de tatous significatifs, puis je suis vraiment de cette école de pensée-là aussi. T'sais, j'en ai des amis là, qui ont, comme Audrey disait, là, des pointes de pizza de tatouer ses avant-bras. Parce que c'est le flash qu'on appelle du tatoueur qui trouvait cool. C'est une forme d'art. La plupart de mes tatous me représentent vraiment quelque chose d'important pour moi, mais j'ai une manche au complet qui représente ma famille, des membres de ma famille. Et moi, il est arrivé des choses dans les dernières années qui font en sorte que je suis plus en contact du tout avec ces gens-là, ces membres-là de ma famille. Fait que j'avouerais que j'y ai pensé parce que j'ai une manche au complet. Là. Ça représente plusieurs milliers de dollars d'investissement aussi en tatou parce que ça coûte cher, se faire tatouer quand même. J'y ai pensé à un moment donné de, un peu comme tu as fait avec tes taureaux, est-ce que je fais des mock-ups, est-ce que je me fais des tatoués? Puis finalement, j'ai pris la décision d'assumer. Parce que je pense qu'il y a ça dans le tatou aussi. T'sais. Tu peux te faire quelque chose comme une rose sur la main parce que c'était à la mode. Tu peux te faire des tatoués maintenant aujourd'hui, puis c'est une très bonne chose. Mais je pense qu'il y a certains tatous comme ça que ça vaut la peine de garder puis d'assumer aussi. Parce que moi, cette manche-là, veut pas, à tous les jours, me rappelle que ta famille dans vie, c'est ta famille. Puis tes amis, ben c'est la famille que tu choisis d'avoir aussi. Fait qu'est-ce qu'il y a de ces tatous-là un jour que je vais vouloir changer, modifier peut-être? Je ferme pas la porte complètement. Mais c'est sûr que, tu sais, mes enfants commencent à m'en parler beaucoup. Mon plus vieux m'en parle parce que là, il est rendu à 9 ans, il fait du skate, mes tatous, il trouve ça donc bien cool. Mais j'essaie de l'éduquer beaucoup là-dessus de si tu te fais tatouer, sache qu'à partir du moment où est-ce que tu te fais tatouer une fois, souvent, tu en veux un deuxième, puis un troisième, puis un quatrième. Fait qu'à surtout de prendre des bonnes décisions sans te dire que, ah ben de toute façon, maintenant, c'est possible de l'effacer. C'est possible de le détatouer. Tu sais, je pense que d'entrée de jeu, quand tu décides de te faire tatouer, c'est parce que tu prends la décision que tu veux quelque chose pour le restant de ta vie.
Ah oui, puis Nate, même en te faisant des tatouages, tu sais, ça reste quand même un peu marqué à vie. Puis c'est fou parce que dans le temps, on n'avait pas l'option des tatouages. Puis c'était vraiment, il fallait se conscientiser, hein, je vais être pogné avec sa vie. Mais on dirait que tu n'as pas cette réflexion-là plus jeune.
Parce que tu vivais dans le moment présent.
Exactement. Tu n'as pas la pensée magique de regarder dans le futur puis d'assumer tes décisions. Tu te dis que non, là, je ne le regrette pas, fait que je vais l'assumer toute ma vie, mais c'est pas nécessairement ça, là.
Ben non, puis des fois, tu l'assumes même pas, même quand t'es adulte, là. Moi, je me suis fait tatouer un gros truc sur la poitrine, sur le chest, parce que, tu sais, pour plusieurs auditeurs à Boulevard le savent, mais j'ai été très, très malade il y a 2 ans. J'ai eu un cancer, j'ai eu un lymphome, puis il était à cet endroit-là. Fait que, tu sais, j'ai pris 2 ans à trouver qu'est-ce que je voulais avoir exactement comme tatou pour représenter cette période-là de ma vie. Puis quand je me suis fait tatouer ça, j'en ai profité pour me faire tatouer 2 petites baguettes de drum sur le côté des index parce que je joue de la batterie. Puis souvent, je tape sur les comptoirs avec mes index et je joue du air drum avec mes doigts dans les airs. Ben, je l'ai même pas dit à ma blonde. Puis finalement, je me suis fait pogner parce que je suis arrivé à la maison avec le gros tatou sur le chest. Elle me dit, ouais, c'est quand même gros, mais tu sais, je comprends, c'est correct, c'est toi, c'est ta décision, c'est ton corps, tout ça. Mais les doigts, j'y ai pas dit. Je me suis fait pogner comme 1 semaine ou 2 après, pendant que je suis en train de me décrotter le nez. Maintenant, elle me regarde, elle me dit, c'est quoi ça? Là, je dis, oh, ouais, ça, j'en ai pas parlé, parce que c'est la première fois que je me faisais tatouer sur les doigts. Mais même ça, même si je suis un gars qui a beaucoup de tatous, au moment où est-ce que le tatoueur a pris ses aiguilles et a commencé à le faire, et que j'étais plus sûr, là. J'étais comme plus certain, là. C'est une bonne idée, c'est une bonne décision, c'est quand même sur les doigts. Mais tu sais, c'est à l'intérieur, avec le temps aussi, ça s'efface. Mais n'empêche que...
Ça paraît, vraiment, ouais.
Ben, ça paraît, puis c'est ça. Faut prendre le temps de prendre des décisions. Puis il y a beaucoup de tatoueurs maintenant qui le font, hein, qui vous l'offrent, ça. Hein, parce que, tu sais, les tatoueurs vont travailler maintenant avec un espèce de skin. Fait que, tu sais, ils vont faire le dessin ou ils vont l'imprimer. Ils appliquent une espèce de colle sur votre peau, puis ils vont vous le mettre. Puis si vous voulez, c'est possible. Ils vont rajouter par-dessus ça une espèce de collant transparent. Puis ils vont te dire, pars avec ça une semaine. Puis assure-toi que tu es à l'aise de vivre avec ça sur ton corps pendant une semaine. Puis si oui, tu reviendras. Puis je vais te le tatouer, je vais te le faire. Ça, vous pouvez le demander à votre tatoueur.
Bon,
aussi, si vous n'êtes pas certain de
c'est la première fois que j'entends parler de ça.
Moi,
mais c'était effectivement bon que tu nous en parles. Un gros merci, Nate.
Hey, ça fait plaisir, les amis. C'était vraiment super intéressant, votre sujet.
Hey, mon pote. T'es smart. À bientôt. Salut.
À bientôt, bye-bye.
J'ai retrouvé le gars, je te parlais, merci à des auditeurs qui nous ont aidés. Là, je disais Vince Loss, là, mais c'est Vin Loss. C'est un gars qui voulait remplacer justement le fameux Zombie Boy.
Ouais.
C'est en 2014 que lui avait commencé à faire surface. Là. Il se présentait comme étant un mannequin qui voulait changer le monde de la mode. Et il y avait un gros fame écrit dans le milieu du front, comme avec un gros Sharpie.
Oui, mais lui, c'est tous des mots, en fait, qu'il a tatoué littéralement partout dans la face, sur le corps, dans le cou, tu sais. Il y a World...
Guilty.
Ah ouais, Guilty, Lick. Écoute, il y en a sexe, évidemment.
Dans les dernières années, tu comprends qu'il s'est éloigné un peu du merveilleux monde de la mode parce que ça n'a pas viré comme il pensait. Là, aujourd'hui, il s'est parti d'une entreprise de bobettes, là, fait qu'il n'y a plus besoin de montrer sa face.
Non, c'est ça.
mais lui, il a essayé de le faire.
Ben oui.
Il est pogné avec ça longtemps. Là.
Ben oui, parce que, tu sais, Zombie Boy, je veux dire, ça a été le premier. Il était... très, très tatoué. Si vous allez voir des photos de Zombie Boy, là, c'est assez Rick Genet, ouais, de son nom. Là.
Je comprends que toute forme d'art, tu n'es pas obligé de la comprendre. Moi, celui-là de Rick Genet, Zombie Boy, je suis capable de te dire que le tatoueur derrière ça, c'est un artiste incroyable.
Oui.
Dans le cas de Vin Lost, avec juste des mots décrits, sérieux, il s'est fait écœurer toute sa vie avec ça.
Ben, c'est ça,
mais t'as vraiment l'impression que c'est quelqu'un qui a écrit dans sa face au Sharpie.
Ah oui, à la main, là, c'est un enfant qui... Non, c'est laid, là. Mais Zombie Boy, je pense qu'on réagit comme ça parce qu'il est devenu populaire aussi avec ça, là.
Ben, il a fait le show de Madonna.
Oh, oui, mannequin, acteur, tu sais, ça lui a servi, là. Mais c'est parce qu'aujourd'hui, quelqu'un reproduit la même affaire, ça a été fait, il est plus reconnu pour ça. Tu comprends, ça marchera pas, puis il va devoir vivre avec ça au quotidien. Tandis que Rick Genet, c'était sa marque de commerce. Fait que je pense que c'était plus accepté facilement. 89-71-101, en avez-vous? Vous regrettez que vous feriez détatouer? Puis là, ben moi, c'est mon client, fait que c'est sûr que je vais vous plugger qu'écoute des tatouages Clinique Viva. Là, moi, j'adore la gang de Clinique Viva. Mais...
Juste répéter ce que j'ai lu dans l'article du 24 heures. Là. C'est entre 4 et 8 séances. C'est faut laisser se passer quelques semaines entre les séances. Donc, mm-hmm. c'est un processus sur un an et demi, deux ans, à ce qu'on m'a expliqué. Et dans le cas des petits tatouages, ça peut monter jusqu'à 1 200. Puis dans le cas des gros tatouages, ben là, c'est pour te faire enlever tout ça. Il va falloir que tu t'entendes avec l'entreprise avec qui tu vas faire affaire. OK, gros show aujourd'hui, notre invité.
Oui, c'est Vanessa Daigle, nutritionniste. Oui. Pas la première fois que vous l'entendez ici à Boulevard. On va parler d'hyperphagie. Ça fait une couple de fois qu'on lâche ça en onde, qu'on effleure à peine le sujet. On connaît bien la boulimie, l'anorexie, mais l'hyperphagie, de ce que je saisis, c'est le fait que tu manges trop, tu te bourres la face, mais il y aurait réellement un trouble alimentaire relié à ça. Fait que c'est un peu ça qu'on va explorer ensemble, parce qu'on a toute l'impression des fois de se bourrer la face, là, mais quand est-ce que ça devient vraiment de l'hyperphagie puis que ça peut être dangereux? C'est là la question.
Parfait. Juste avant, le clan de la savate qu'on vous présente dans les prochaines secondes avec l'armée des voyous. Il y a un gros spectacle assez intense qui arrive au Centre Vidéotron. Ça va être le 28 mars prochain. Les invités spéciaux de ce band-là, ça va être Cannibal Corpse et Carcass. C'est quoi le band? C'est Meshuga. Donc, ça va brasser comme pas possible dans la place. Si vous n'avez pas encore vos billets, ils sont en vente sur gestev.com ou encore sur ticketmaster.ca. C'est une présentation de Live Nation et de Gestev. Donc, une paire de billets à l'instant au 88-971-1021. C'est le spectacle pour le 28 mars. Le mot de passe du jour, Audrey, ça va être quoi?
Ça va être Bobette. Faut vraiment que tu arrêtes de me demander ça.
Bobette. Merci pour ta recherche, Audrey, aujourd'hui. J'aurais plus besoin de toi, finalement.
Faut pas que tu me prennes de confiance.
Je vais m'occuper du reste.
C'est tout ce qui m'est venu en tête, là.
Vous pouvez quitter.
Parfait. Salut, là.
C'est beau. Les billets pour Meshuga ont été gagnés. Merci aux auditeurs de ne plus m'envoyer le mot de passe d'Audrey Pinchot. 418-971-101. Si vous voyez quoi que ce soit sur la route, les amis, c'est par texto que ça fonctionne. Donc, merci d'être nos yeux, nos oreilles. De même que si vous voulez communiquer avec nous, c'est par là que vous devez le faire. À la météo aujourd'hui, je ne sais pas si tu es sorti hier soir, mais ça a descendu jusqu'à moins 15. Hier, on a quand même eu une journée qui était somme toute raisonnable au niveau du mercure.
Ben,
là.
Vraiment.
On avait un peu de pluie, mais c'était quand même confortable. Moins 15.
C'est impressionnant. À matin, mettons, là, j'en trouvais moins drôle que quand je suis arrivée chez nous hier soir.
Est-ce que tes portes étaient collées à matin?
En fait, moi, c'était comme givré là, dans mon... Ouais. Mes portes n'étaient pas collées. J'étais correct à ce niveau-là.
Moi, ils m'ont prêté une voiture de location. Là. Oui. Je me sens très homme dans mon grand caravane.
Absolument. Blanche,
et,
c'est ça?
Tu l'as vu?
Ah oui, oui. Ça te va à merveille. C'est parce qu'il faut savoir, Vanessa, que Yann est habitué avec son Wrangler, là, son Jeep Ball, tu comprends?
Puis là, j'ai fait quelques tonnes. Ce qui fait en sorte qu'on me dit qu'il faut que je le fasse réparer.
C'est ça qu'ils disent.
Et là, ils m'ont prêté une voiture chez Enterprise, un grand caravane, c'était le seul qui restait dans la cour pendant la semaine de relâche. Puis là, j'ai dit, ben, coudon, ce sera ça. Mais là, je suis en train de tomber en amour avec ce véhicule-là.
Wow!
Parce qu'il y a de l'espace, t'es bien, t'es confortable. Véhicule chauffant, le volant est chauffant.
C'est tout ce qu'il te fallait pour te changer.
Il est full équipe. Fait que là, c'est rendu que je fais des babayes aux autres gars qui ont des grands caravanes.
Oh là là!
Je suis en train d'embarquer dans le sec.
Tu t'habitues. Non, mais oui. C'est bon. Écoute, si c'est tout ce qu'il fallait pour te changer, on est
puis,
là.
Moi, je suis quelqu'un qui fait énormément de voitures. Puis des fois, j'ai comme un 20-30 minutes où j'ai du lousse, où je peux me coucher.
Fait que là, dans la vanne, ça fait bien.
Je l'ai pas encore fait dans la vanne. Je le faisais dans mon truck, bien entendu. Je cantais le bain au 45. Ouais. Je pars 20 minutes, puis après ça, je me réveille top shape. Mais le grand caravane, là, je vais l'essayer.
Dan Caron te salue, il fait dire que t'es dans sa gang, parce que Dan a une vanne.
Salut mon oncle Dan!
Grise. Oui, ben vous êtes des mononcles, mais vous
Marceau,
êtes heureux.
Mon oncle Dan.
Absolument.
Ben oui, exact. Mais c'est une étape. Je suis en train de vivre une étape dans ma vie. Je m'en vais vers là. Y a des gens qui me disent on a pitié pour toi, Marceau. Ouais, c'est...
Franchement. Ouais. Ah non, regarde, il y a quelqu'un qui dit c'est le signe de masculin absolu, la caravane.
Oui!
Regarde.
Exact, mais il faut que tu la remplisses d'enfants en arrière.
Oui, c'est ça.
Oui, c'est ça. C'est
faut
ça
encore la ouais. Faut que tu aies encore la mère de tes enfants à ta droite.
Oui.
Avec les 18 enfants en arrière.
Sinon, ben non, mais regarde, tu peux le mettre sur le fait que tu as des projets de vie.
Ouais.
Tu veux devenir un homme libre, tu veux faire de la van life.
Oui.
Ça passe
je
bien
veux
dans
pas qu'une fille m'aime juste pour mon char.
C'est ça.
Tu comprends? Hey,
Yann, tes priorités s'en viennent aux bonnes pièces. Je suis fier de toi.
Aux bonnes pièces.
Ouais, bonnes pièces.
Mes priorités s'en viennent aux bonnes pièces.
Exact.
Salut les filles. Hey, quel plaisir de l'accueillir en studio. C'est Vanessa Daigle. C'est pas la première fois que vous l'entendez. C'est quelqu'un qu'on aime bien. Les nutritionnistes. podcast et on va jaser d'hyperphagie. On connaît beaucoup la boulimie, on en a régulièrement parlé, l'anorexie aussi. Mais qu'est-ce que l'hyperphagie? Ça va être le sujet du jour. Juste avant, j'ai le goût d'abuser de toi, Vanessa Daigle.
Oh. Mais vas-y.
Ah ben, ah, c'est la première fois qu'une fille me dit ça.
Oui, c'est parce ça, que t'as une caravane. Je suis charmée. Je suis charmée.
Le taux de gras, là. Moi, j'entends souvent parler du taux de gras au gym. Ouais. Bon, il y a des gars qui sont de plus en plus ouverts là, à parler de ça. Avant, les gars étaient dans les années 90, là, quand j'étais, moi, à la fin de mon adolescence et tout ça. Ils parlaient pas du taux de gras. Mmh. Je côtoyais pas ces gars-là. Puis là, ben, des fois, je les écoute parler dans le vestiaire. Puis là, ils me parlent de pourcentage de gras. Comment ça fonctionne? Qu'est-ce qui fait en sorte que le pourcentage... Est-ce que le pourcentage de gras peut déterminer ta santé? Tu sais, il y a des gars qui sont en compétition qui peuvent descendre jusqu'à 3-4 % de gras. Puis je me dis, si maintenant qu'ils sont sur l'article de la mort,
ouais, c'est très peu.
Si jamais il y a un moins 15 demain, c'est les premiers à mourir. Mm-hmm. Tu sais, c'est...
c'est maman clair. Disait, les gros survivront. C'est comme ça qu'elle serait confortée.
Oui, puis il y en a d'autres qui disent, ben moi, j'ai juste des gros os.
C'est facile,
pour ça que j'ai de la gras. Comment ça fonctionne, le taux de gras? Puis c'est quoi cet indicateur-là? Pourquoi on est fixé là-dessus quand on s'entraîne?
Ben, en fait, j'ai envie de te dire, c'est carrément associé à l'apparence, là. Parce ouais. que, en fait, l'affaire avec le taux de gras, c'est que t'as beau avoir tous les muscles du monde, s'ils sont cachés avec en dessous d'une masse adipeuse, tu seras pas découpé, tu seras pas cut, t'auras
pas
le
physique. Ah, c'est ça que j'ai. J'ai tous les muscles du monde.
Et moi, je protège mes abdos, c'est ce que je dis constamment. Faut les garder en
fait
bon état.
Fait que t'auras pas le physique que tu souhaites. Fait que moins que t'as de gras, plus que, en fait, tes muscles sont définis. Ouais. C'est ce qu'on appelle être fit. Fait que c'est pour ça que, tu sais, dans le monde du fitness, c'est très, très, très populaire. Mais pour revenir à ce que tu disais par rapport à la santé, en fait, plus la science évolue, plus on réalise que c'est un raccourci intellectuel de se dire que le pourcentage de gras est associé à un meilleur taux de santé. En fait, ce qui va bien au-delà du pourcentage de gras, c'est les habitudes de vie. T'sais. Maintenant, on sait qu'il y a ce qu'on appelle des obèses métaboliquement sains. Ouais. Ça veut dire que si tu as une personne qui est en surpoids, mais qui a des saines habitudes de vie, bien, elle peut être bien plus en santé, justement, que quelqu'un qui a un pourcentage de gras très maigre. Très maigre, je te dirais, bien, tu sais, c'est sûr, ça dépend dans le sens. C'est sûr que cette personne-là, probablement, elle mange bien, relativement bien, là, mais souvent, ça flirte aussi avec le trouble alimentaire rendu là.
Moi, quand je vois les gars au gym avec des six-packs, Vanessa, je me dis qu'ils mangent pas assez.
Ben souvent, ils mangent très peu. Tu te casses ça, là.
Ils essayent vraiment aujourd'hui de faire une
petite thérapie. Pourtant, je fais les mêmes exercices qu'eux autres, puis j'ai pas ce six-pack-là. Tu sais.
Mais je te dirais que chez les femmes, là, il y a un enjeu, parce que souvent, les femmes qui vont descendre très, très bas, c'est tellement, justement, restrictif qu'après, souvent, c'est des femmes qui vont reprendre du poids, puis qui vont avoir de la misère à retrouver quasiment... Ils peuvent avoir de la misère à trouver un poids normal, là, que je vais mettre en grosse parenthèse. Là. Ouais, parce que c'est tellement restrictif que tu peux pas le maintenir. Fait
moi,
que...
je suis déjà tombée là-dedans. Là. C'était ridicule. Dans on m'avait parlé dans le déficit calorique. J'étais rendue que je mangeais genre du 900 000 calories maximum par jour.
C'est tellement pas beaucoup.
900 rien, à 1000 calories.
À 1000 calories.
C'est impossible de combler tes besoins nutritionnels avec aussi peu de calories.
Puis j'ai perdu là, le 10 poids, écoute, puis ben, ça a duré à peu près 3 mois. Parce que quand je me suis mis à avoir faim, tu comprends, puis à vouloir remanger normalement, ben, c'est sûr que ça a pas toffé, puis j'ai repris le poids initial à cette étape-là dans ma vie. Là.
Mais est-ce que les scientifiques ont identifié le fameux taux de gras qui va faire en sorte que c'est le poids, le taux
idéal.
De gras idéal? Parce que les gars peuvent descendre plus bas, à ce qu'on me dit, surtout au niveau de la compétition, peuvent descendre autour de 3-4 % donc ils ont de l'air, tu sais, chétifs, ben, en tout cas, très maigres du moins. Mm-hmm. Puis de l'autre côté, les femmes peuvent descendre autour de 10-11. Est-ce que c'est encore ça là, au niveau de la compétition?
Ben oui, mais il y a deux questions dans ta question, là, dans le sens où oui, c'est encore ça au niveau de la compétition, dans le sens que c'est ça qui veulent. Là. Ils veulent que la personne soit le plus lean possible pour que les muscles soient le plus définis. Par contre, au niveau de la santé, tu sais, est-ce qu'on a établi un pourcentage de gras idéal? J'ai envie de te dire que les réponses sont jamais aussi simples en santé qu'en nutrition. Tu sais, il y a tellement de facteurs. Tu sais, ton pourcentage de gras, OK, mais qu'est-ce que tu manges? Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu fumes? C'est quoi ton environnement? C'est quoi ton travail? T'es-tu stressé? Tu dors-tu? Tu sais, c'est tellement plus la santé qu'un pourcentage de gras que tu peux pas dire, OK, ben toi, ça, 16 % de gras, t'es sacoche. Tu sais,
oui. Ça dépend aussi, j'imagine, même de l'IMC, ta grandeur,
même,
c'est ça?
Mais non, mais même l'IMC, là, c'est quelque chose qui tient plus en santé. Ça a été limite aboli, là, parce que c'est une formule qui tient compte de ta grandeur et ton poids. Mais justement, après ça, tu sais, ta masse musculaire. Ouais.
Moi, je t'obèse, là.
Ah oh ouais, genre, c'est
selon
fou,
la,
là.
Selon
c'est
la charte, là, il y avait même des chartes colorées chez le médecin à une certaine époque, là. Mm-hmm. Puis moi, je suis considérée obèse, là. Mm-hmm. J'ai-tu un petit mou de ventre? Absolument, là. Je suis obèse? pense pas non plus. mais à la grandeur puis au poids que
ça
j'ai.
Ça part à part. Il suffit que justement tu sois un petit peu plus large, tu sais, puis tu rentres pas dans les chiffres. Fait que c'est très difficile à déterminer. C'est vraiment plus justement le focus s'en va de plus en plus vraiment sur les habitudes de vie versus comme le poids. Évidemment, dans les gyms, ça change pas parce que dans les gyms, il y a tout l'aspect d'esthétique, tu sais.
Ouais.
Mais si on focus vraiment sur la santé, plus ça va, plus on se détache.
Fait qu'il y a une marge entre être en santé puis être en forme, de ce que je comprends. C'est comme si c'était deux choses.
Ben, je te dirais, il y a une marge entre être en santé puis être lean.
Okay.
Être en forme, si tu es en forme, ça veut dire que tu fais du sport déjà pour ta santé, si c'est favorable.
C'est bien.
Pour moi, être en forme puis être lean, c'est pas la même affaire.
Je comprends.
C'est quoi lean?
Ben, mais mince, en fait.
Qu'on voit tes
abdos. Être sa cote.
Donc, on peut dire être défini.
Défini, oui.
Défini,
oui.
OK, je comprends. Autre sujet, avant de parler du sujet principal qui est hyper...
Il va-tu rester du temps?
Il règle ses dossiers, lui, là.
Quand on écoute parler des psychologues ou des psychiatres à la radio, exemple, on aime beaucoup ça, moi et Audrey, les recevoir, ces gens-là. Mm-hmm. Il y a... puis même moi, je plaide coupable. Là, quand on parle du DSM, là, donc du grand dictionnaire des maladies mentales, tu te dis, mais coudonc, j'ai-tu ça? Moi, il me semble que je corresponds un peu à ce qu'il est en train de dire. Puis, ce qu'un psychologue m'avait dit, c'est que c'est sain, des fois, de se poser des questions, savoir, tu sais, OK, quand j'entends quelque chose. Mais dans le DSM, tu peux correspondre à quelques trucs. C'est juste faut que tu correspondes à 100% pour être diagnostiqué comme étant une personne comme telle. Dans ton métier, toi, de professionnel, de nutritionniste, y a-tu des gens qui, avant d'aller te voir, commencent à faire des recherches Google, puis finalement, ils arrivent en catastrophe en disant « Écoute, Vanessa, c'est bon, moi, je te baise, mais elle pèse 110 livres. » Tu sais, c'est...
oui, il y a beaucoup d'autodiagnostics. Je te dirais, de plus en plus, justement, avec les médias sociaux, là, dans le sens que souvent, les gens, c'est la porte d'entrée vers « OK, je savais même pas que ça existait. » Tu sais, plus ça va, plus il y a des choses qui sont nommées, plus on met le nom sur certaines choses. Mais je te dirais, à l'inverse aussi, il y a beaucoup de choses qui sont quand même méconnues. Tu sais, je pense notamment à la santé digestive, que comme il y a plein de pathologies ou de troubles, que les gens sont comme « My God, comme ça fait des années que j'essaie de trouver des réponses à mes questions, puis j'en ai pas. » Fait que dans les deux sens, oui. C'est toujours un peu, je te dirais, malaisant, limite, quand les gens y arrivent avec un autodiagnostic et que toi, t'es pas sûr que c'est ça.
C'est parce que toi, t'étudies là-dedans.
Ouais, fait que là, faut comme que tu ramènes les faits sans nécessairement confronter la personne dans ses croyances. Là, fait que ça prend quand même un doigté. Mais oui, définitivement. Là, puis je pense qu'effectivement, on est tous, quand on se reconnaît dans quelque chose, on est tous un peu curieux. Fait qu'on va fouiller, on fait des recherches.
Ouais.
Puis je pense que c'est sécurisant aussi de pouvoir savoir que, OK, c'est ça que j'ai.
Ben oui, parce que sinon, tu te demandes si t'es normal.
Ouais, c'est ça,
point.
Exactement. On cherche une certaine normalité. Quoi qu'en 2025, la normalité, je pense, ça n'existe plus.
C'est éclaté un peu. Là.
L'exemple que je peux te donner, c'est que tu as mal à la tête, tu t'en vas rechercher sur Google les possibilités parce que tu as mal à la tête, puis ça finit par un cancer généralisé.
C'est ça.
Tu te stresses avant d'aller voir le médecin. Va voir le médecin en premier.
Totalement.
Lui,
mais eux,
dire...
ça doit être épouvantable.
Ben oui.
Les gens, c'est sûr qu'ils arrivent dans leur bureau, puis ils se sont déjà diagnostiqués.
Docteur Google, ben oui. Mais tu sais, les réseaux sociaux, je dirais, on plaide toutes coupables à un certain niveau, là, mais de plus en plus, tu as des professionnels. Puis c'est que ça a tellement de bon, mais ça a tellement de négatif aussi. Tu as de plus en plus de professionnels qui vont mettre du contenu sur leur plateforme pour t'éduquer. Puis ça fait en sorte que toi, tu lis ça, justement, tu te reconnais dans une ou deux affaires, puis assez rapidement, tu t'auto-diagnostiques, puis tu te retrouves là-dedans. Là. Tu sais, moi, l'hyperphagie, l'une des premières fois qu'on a discuté ensemble, moi, puis Vanessa, puis qu'on a abordé ce sujet-là, là, tout de suite, je me suis dit, tabarnouche. J'ai-tu déjà eu ça, moi, ou j'ai-tu ça? Parce que, tu sais, mais c'est vrai, tu viens que tu cherches à comprendre.
Mais c'est sain de le faire, je pense. Puis nos grands-mères avaient-tu raison? Là, toi, t'es dans un métier assez particulier, le nutritionniste. Là. Tu sais, nos grands-mères
disaient
« Mange ça, ça va t'ouvrir l'appétit. Bois une tasse d'eau chaude après ton repas, là, tu peux être sûr que ça va... Tu vas digérer mieux. »
Ben là, les grands-mères disaient ben les affaires, mais l'eau chaude peut aider à digérer, effectivement. Il y a des choses quand même...
Il y avait raison.
Ben sur certaines choses. Okay. Ça prouve que l'intuition peut quand même être bonne sur certaines choses. C'est-à-dire que des fois, on a comme le feeling, tu sais, que ça nous fait du bien. Ben des fois, on peut l'écouter, notre intuition, si on a le feeling que ça nous fait du bien. Fait que...
Ça a été une mode, ça aussi, la nutrition intuitive, si je
c'est
le dis comme
mode,
du monde.
C'est pas une mode, c'est encore très d'actualité.
Oui, c'est encore très présent, parce qu'on dirait que... Puis là, moi, je parle vraiment juste comme consommatrice de réseaux sociaux, dans le fond, là. Mais tu sais, il y a eu tout ce qui est keto, tout ce qui est comme plus restrictif. Puis à un moment donné, il y a comme eu la vague totalement contraire où là, c'était comme fie-toi à ton intuition pour manger. Si tu sens que t'as le goût d'un verre de lait, mettons, ben c'est parce que tu dois avoir besoin des nutriments puis des patentes qu'il y a dans ton lait. Mm-hmm. Puis tu vois, je me suis toujours posé des questions à savoir à quel point ça pouvait être efficace, ce mode de nutrition-là, parce que moi, on m'a dit que j'ai le goût de chip une couple de fois par jour, Vanessa.
Ouais. Fait
que
c'est toute ton intuition est
pas bonne, là. Mon intuition est pas dans le bon chemin, pas en tout, là.
Mais tu sais, c'est un sujet qu'on pourrait réaborder, mais c'est parce que l'alimentation intuitive est souvent mal comprise parce qu'elle nécessite d'amener beaucoup de nuances dans le discours, ce qui est très difficile à faire sur les médias sociaux parce que c'est des messages qui sont courts. Fait qu'effectivement, le principe de l'alimentation intuitive, c'est pas manger, de manger des chips à longueur de journée puis d'écouter tes envies. Tu écoutes quand même ton rationnel qui dit, mais je sais que si je mange des chips à longueur de journée, je me sentirai pas bien.
J'imagine aussi qu'il y a des étapes. Tu sais, si tu t'appelles Gisèle puis que tu es en surpoids à 250 livres, tu peux peut-être pas commencer par l'alimentation intuitive. Tu as peut-être une éducation à faire avant de te rendre.
Puis l'alimentation intuitive n'est pas une méthode de perte de poids. T'sais, c'est-à-dire que ça a pour but surtout d'améliorer ta relation avec la nourriture puis de te sortir de la culture des diètes qui te drainent vers le bas. Mais c'est pas une méthode de perte de poids.
Parfait. Vanessa Daigle, le nutritionniste, maintenant on parle de l'hyperphagie pour les gens qui ne connaissent pas ça comme moi. Qu'est-ce que l'hyperphagie?
Bien, l'hyperphagie, en fait, c'est un trouble alimentaire. Là, tu parlais tantôt du DSM-5. Donc, depuis 2013, en fait, il fait officiellement partie du DSM-5. C'est relativement nouveau, là, comparativement aux autres troubles alimentaires. Donc, ce que c'est vraiment, c'est une perte de contrôle par rapport à l'alimentation. Fait que les personnes qui vivent des crises d'hyperphagie, qu'on appelle, là, ils vont vraiment avoir des crises. Fait qu'ils vont se mettre à manger en très grande quantité, souvent très rapidement, des aliments plaisir, là, fait que des sucreries, des chips, etc. Puis après, ça vient avec un sentiment de honte, de culpabilité. Fait que tantôt, tu disais, on connaît tous la boulimie. Fait que c'est un peu la boulimie. La distinction avec la boulimie, c'est que la boulimie va toujours avoir un élément compensateur. Fait que soit qu'on va se faire vomir, soit qu'on va prendre des laxatifs ou qu'on va faire de l'activité physique à l'excès. L'hyperphagie, non. Fait que c'est vraiment juste des crises à n'en plus finir. Vraiment une sensation de perte de contrôle. Là. Fait qu'on mange, on mange, on mange, on mange, on mange. Puis après, on fait comme, oh my God, qu'est-ce que j'ai fait? Jusqu'à en avoir mal au cœur, pas filé. Fait que la différence, en fait, avec les autres troubles alimentaires, c'est que nous, quand on s'imagine quelqu'un qui vit avec un trouble alimentaire, on s'imagine quelqu'un qui est relativement maigre, tu sais, qu'on voit. Tu sais, des fois, on croise des personnes puis on se dit, crime, d'après moi, elle a un trouble alimentaire. Visuellement, cette personne-là est maigre. La différence, l'hyperphagie, c'est que tu as un trouble alimentaire, mais souvent, ces personnes-là, vous vous en doutez, vont se ramasser en surpoids. Fait qu'ils n'ont pas le profil typique qu'on s'attend là, d'une personne qui a le trouble alimentaire.
Puis est-ce que c'est un problème physique ou un problème mental?
Je te dirais que majoritairement très, très, très psychologique. Là. C'est souvent, je vous dirais, les deux plus grandes causes, en fait, de ça. Là. C'est vraiment émotionnel. Fait que les gens vont aller remplir un vide. Là. Ils savent pas trop pourquoi. Puis ils mangent. T'sais. Souvent, en fait, quand j'ai des clients hyperphagiques, ils flirtent avec la dépression. Là. Souvent, il y a vraiment quelque chose de lourd là, dans leur quotidien qui doit être adressé. Ou, justement, c'est des gens qui veulent tellement perdre de poids qu'ils vont couper les calories. Puis là, c'est comme, justement, un moment donné, le corps a besoin de s'alimenter. Là, fait que le corps t'amène à manger, mais quand tu commences à manger, là, c'est comme si c'était plus fort que toi. Là, tu perds le contrôle. Fait que la restriction puis la santé psychologique, c'est vraiment les deux plus grandes choses qui peuvent mener vers ça. Il y a aussi de la littérature qui a démontré que le TDAH pouvait vraiment avoir un lien avec l'hyperphagie parce que le TDAH est associé à une plus grande part d'impulsivité. Puis l'impulsivité, justement, dans la crise hyperphagique est très associée. Fait que les gens qui ont un diagnostic de TDAH, ils ont plus de chances de souffrir de crise hyperphagique.
Est-ce que, mettons qu'on prend les troubles alimentaires at large, là, de façon plus large, là, est-ce que c'est toujours provoqué par un événement, une situation, un certain choc ou c'est, je vais dire, inné? Tu sais, peu importe quel trouble, quand tu te ramasses dans un trouble alimentaire, c'est-tu parce qu'il y a un déclencheur absolument?
Bien, je te dirais qu'il n'y a pas nécessairement un événement déclencheur. Ça peut être un contexte. T'sais, ça peut être justement, mettons, je suis rendue adolescente puis je me fais écœurer parce que j'ai des courbes. Ça peut être, dans les sports, il y a certains sports qui sont très associés aux troubles alimentaires, là, genre la danse, la gymnastique, le plongeon, tout ce que tu dois être fit. Fait que souvent, ils sont tellement contrôlés puis sont tellement comparés puis sont tellement jugés sur leur physique que ça va déclencher. Fait que oui, il peut y avoir un déclencheur, mais il peut y avoir aussi un contexte puis la personnalité aussi. Des gens qui sont très perfectionnistes, qui veulent à tout prix avoir le contrôle sur quelque chose, c'est des personnalités qui ont plus tendance à développer des troubles alimentaires.
OK. Moi, je ne crois pas avoir de problème alimentaire, mais je sais que quand je mange un repas que je trouve excellent, là, je suis capable de me rendre au bout de l'assiette sans aucun problème, même si je sais que je suis plein. Mm-hmm. Je suis capable de remplir ça. Je suis capable de remplir ça jusqu'au bouchon sans problème. Puis je me souviens qu'à un moment donné, je me regarde dans le miroir. Je me dis, tabarouette, qu'est-ce qui se passe? Je suis enceinte, tu sais. Je suis capable d'emmagasiner. C'est pour ça que je t'ai posé la question à savoir si c'était physique ou mental, parce que j'ai l'impression qu'il y a des moments de ma vie sur plusieurs semaines où je remplis ça là, à pleine capacité, puis que j'étire mon estomac.
Ah, mais ça, en tout cas, bienvenue chez les femmes, là.
Ah, vous êtes toutes de même.
Corrige-moi, Vanessa, là, mais je mange une petite collation, même si elle est saine. Je veux dire, le matin, tu te lèves, là, t'es fière de ton corps parce que t'es donc bien flat, tu comprends, puis mince, t'as le ventre plat, t'es donc bien content. Puis t'arrives le soir chez vous, puis t'as l'impression d'être enceinte de 4 mois, là. Mais c'est ça, là.
Mais ça, moi, dans mon cas, là, ça gonfle en sacrifice après souper. Quand j'ai mangé quelque chose que j'aimais, là, je suis capable de prendre 3-4 autres portions sans aucun problème. Puis ça gonfle, puis je me dis... Ben là, souvent, je suis sur le point de m'endormir. Hein. Faut que j'arrête. Mais je me dis, pourquoi c'est comme ça? Il y en a qui arrêtent, là, ils sont pas encore rendus au point de non-retour. Là, c'est-à-dire,
ils savent quand s'arrêter.
Là, faut que j'arrête, sinon je vais vomir. Fait, ils savent quand s'arrêter, puis ils savent, en même temps, si je mange plus, ça ne servira à rien. Je vais juste accumuler des graisses. T'sais. J'ai pas ça. On dirait, moi, je suis capable de manger à pleine capacité. Y a-t-il un danger, là?
Mais est-ce que tu te poses des questions? Aidez-moi,
docteur!
Mais est-ce que tu te poses des questions?
C'est bon!
Ben, c'est ça! C'est juste que tu réfléchis pas!
J'ai un bon repas!
C'est juste qu'il y a des gens qui vont réfléchir, puis ils vont se dire, OK, peut-être que je vais pas filer après si je continue de manger, fait qu'ils vont arrêter.
Ah non, c'est
toi,
ça.
Toi, tu manges, comme, puis tu t'en fous probablement. Tu t'es pas en surpoids.
En cas de doute, t'as le gaz au bout.
C'est ça. Fait que moi, je pense que c'est dans ta personnalité.
Quand
fait.
Je vais. Ouais, c'est ça, c'est pas
c'est toi le problème!
Mais si, mettons, quelqu'un veut me tuer, là, tu m'offres un resort 5 étoiles. Pendant un an, là, tu peux me voir au buffet matin, midi, soir.
Mais tu trouves pas que c'est pas le fun?
Genre, ben, moi, j'aime ça.
Ah, mais non, oui, mais tu files pas après.
Quand c'est bon, c'est bon.
Tu sais, moi, mettons, le monde qui mange de la poutine sur l'heure du dîner puis qui vont travailler après, là, je suis comme, arc!
Oh, moi,
comment être productif
ça.
Après une poutine? Genre.
Ben, moi, je suis très productif après une poutine.
Je te dis pas, moi, tu vois, je te dis pas que je suis productive, mais c'est comme si le plaisir est tellement grand que dans
qui
ma
surpasse.
Balance,
ouais, c'est
je suis comme, je file, tu sais, hier soir, mettons, on fête mon beau-frère à la maison, ma belle-sœur a fait un de ces gâteaux au chocolat, là, comme j'ai rarement mangé. C'était tellement bon. J'avais une petite pointe. Puis là, je me suis dit, Audrey, c'est assez.
Donc,
assez
Audrey
mangé.
Réfléchit comparativement
ouais,
à Yann.
Le problème, c'est que j'ai un dédoublement de personnalité, visiblement, là, parce qu'il y en a un qui tue l'autre. Là.
Tu réfléchis, puis t'en as repris.
J'en ai repris, tu dis? Hey, quand ils sont partis de chez nous, j'ai dit à mon chum, j'ai le goût de vomir, je peux pas aller me coucher, ouais. Ça descend pas.
C'est trop bon. Mais il y a un auditeur qui a mis le doigt sur le mot que je cherchais, là, satiété. Je ne ressens pas la satiété.
OK, tu la ressens pas.
Quand je mange un bon repas.
Mais tu la ressens quand tu manges
quand c'est moi
un
qui
mauvais
fait,
repas.
Quand c'est moi qui fais ma bouffe, là, je mange juste mon sandwich.
Mais c'est parce que c'est sûr que tu la ressens, c'est juste que tu ne l'écoutes pas.
C'est ça.
Puis dans le fond, c'est quand on mange des aliments plaisir, un peu comme ton histoire de gâteau hier, quand on mange des aliments qui sont... Tu sais, des aliments de la nature, là, mettons, ça n'a pas ce potentiel-là. Fait que tu sais, tout ce qui est fruits, légumes, noix, graines, ça, on ne va pas se ramasser là. Quand on se ramasse avec des aliments qui ont un mix de gras, de sucre, de sel, tu sais, là, on a comme la palatale... palatabilité qui est vraiment au top, puis ça va vraiment stimuler notre système de récompense au niveau du cerveau, ce qui fait en sorte que là, on s'active, tu sais, c'est un peu comme la fameuse drogue, là. On active le truc qui fait en sorte que, OK, j'en veux encore, puis ça devient difficile d'arrêter. Ça devient difficile d'arrêter pour tout le monde. La différence, c'est, ben il faut qu'on se parle, il va toujours avoir une part de discipline dans l'alimentation, là.
Ouais,
mais il y a
ça.
Des gens, pour revenir au sujet de l'hyperphagie, il y a des gens que c'est pathologique, puis que là, justement, c'est vraiment comme, ça prend le dessus, vraiment une perte de contrôle, là. Ils ont l'impression d'être déconnectés.
Puis on entend parler de l'hyperphagie de plus en plus, j'ai l'impression, parce que moi, avant l'année passée, mettons, j'avais jamais entendu parler de ça, l'hyperphagie. Et puis c'est comme un cercle vicieux de ce que je comprends, t'en sortir, ça a l'air assez compliqué, là. Et c'est-tu fréquent? Y a-tu bien du monde que tu vois maintenant dans ta pratique qui sont atteints de ça?
Mais en fait, je dirais, je vois beaucoup de personnes qui disent avoir des crises d'hyperphagie. J'ai très peu de personnes qui ont un réel diagnostic d'hyperphagie. Fait que, tu sais, des fois, les gens vont dire, moi, je pense que j'ai ça. On parlait tantôt de l'autodiagnostic, tu sais. Puis des fois, c'est pas nécessairement ça, dans le sens que les gens peuvent avoir des crises, ils peuvent déraper. Tu sais, un peu comme tu disais, moi, tu sais, je me disais, j'avais tout ça. Probablement que c'était pas de l'hyperphagie, mais que tu avais des moments où tu mangeais en trop grande quantité, puis tout. Mais je te dirais, peu importe que les gens soient diagnostiqués ou pas diagnostiqués, que ce soit une vraie hyperphagie ou pas une vraie hyperphagie, dans le fond, on s'en fout parce que la finalité, c'est que les gens, la souffrance est la même. Les gens, ça les rend anxieux. Ils se sentent pris avec un servicieux, justement. Puis souvent, ce qui va exacerber le problème, dans le fond, c'est que ces personnes-là, à cause des crises d'hyperphagie, ils vont prendre du poids. Mmh. Là, ils vont capoter, fait qu'ils vont vouloir perdre du poids. Fait qu'ils vont se mettre à couper, manger moins. Dieu. Fait que là, ils vont avoir de plus en plus de crises. Fait que la première chose à faire, ces gens-là, ils, dans le fond, ils nous consultent, puis ils sont comme, OK, moi, j'ai des crises d'hyperphagie, puis il faut que je perde du poids. Fait que je veux perdre du poids. Je suis comme, mais je suis désolée, mais comme la première chose à faire pour régler les crises, c'est de cesser temporairement de vouloir perdre du poids. Puis de toute façon, la meilleure chose qui peut te faire perdre du poids, c'est d'arrêter d'avoir des crises là, à court terme. Là. Mmh. Fait que arrête la restriction, mange dans le jour. Tu sais, même des fois, on va même faire une cédule, OK, tu te poses pas de questions. Là. Tu manges à telle heure, telle heure, telle heure, tu sais, pour que comme t'aies pas à réfléchir. Là, oh, je mange-tu, je mange pas, je mange ça, je mange
puis
pas.
Puis ton
ça,
corps t'sais. S'habitue aussi.
Tu réalimentes ton corps pour qu'il arrête de te donner ces crises-là.
T'sais. D'être en privation constante.
Hey, beaucoup d'auditeurs qui nous écrivent, Vanessa Daigle, nutritionniste. Salut, je suis diagnostiquée par un psychiatre qui est un spécialiste des troubles alimentaires. Je suis hyperphagique. Est-ce que être hyperphagique, tu l'es toute ta vie?
Pas nécessairement. Je te dirais que moi, j'ai eu plusieurs personnes aussi qui me disent qu'ils ont eu des épisodes hyperphagiques et que c'est maintenant réglé. Ça va toujours rester avec une fragilité, une ouais. sensibilité.
C'est un peu comme l'alcool, exemple?
Ben oui, puis non, dans le sens que tu vas jamais arrêter de manger, tu sais. Fait que tu restes toujours avec une sensibilité.
Comme l'anorexie, finalement.
Oui, tu vas toujours, tu sais, ton bagage va toujours rester. Tu as une fragilité, tu as une relation avec la nourriture qui peut facilement flancher. Des fois, il y a des personnes qui disent, OK, j'ai une meilleure, une phase où, mettons, pendant 8 ans de ma vie, j'ai pas eu de crise, je me suis séparée. Là, je suis retombée dans mes vieux patterns, puis là, c'est revenu, tu sais. Fait que cette fragilité-là, elle demeure, ça va toujours faire partie de leur bagage. Puis c'est important de le nommer aussi quand on consulte, là, justement, parce que la stratégie va être différente. Il va falloir, faut vraiment en tenir en compte, tu sais, qu'il y a cette fragilité-là. Là.
Qu'est-ce qu'on fait? Pour régler ça?
Ouais.
Ben, dans le fond,
c'est vrai que ça manquait de contexte.
Qu'est-ce qu'on fait, Vanessa? Ben, découragée, ben, on fait quoi?
Est-ce qu'on exclut la personne qui parle?
Elle exclut la personne qui parle. Je suis gourmande. Ça, ouais. Je pense que c'est classé. Je suis très gourmande. Mm. Je pense pas avoir un diagnostic demain matin, par exemple.
Ben, dans le fond, la première chose, c'est vraiment de trouver la cause, en fait. Tu sais, comme dans n'importe quoi. Là. Pourquoi tu t'es ramassé à avoir des crises d'hyperphagie? Ouais. Tantôt, je parlais de dépression. Tu sais, c'est con, mais il y en a qui ont des choses à régler dans leur vie. Puis si tu vas régler des choses dans ta vie, tu vas te sentir mieux, tu vas avoir moins cette impression de vide-là, puis ça va enlever les crises. Après ça, justement, de diminuer la restriction, de réalimenter ton corps, d'arrêter de voir les aliments comme étant genre ça, je peux les manger, puis ça, je peux pas. Parce que souvent, tout ce que tu vas manger pendant les crises, c'est ce que tu peux pas. Tu sais, il y a un ménage psychologique à faire aussi au travers de ça, de réapprendre à écouter ses signaux corporels. Tu sais, on est vraiment là-dedans parce que souvent, les gens, c'est des gens qui ils savent là, c'est quoi manger sainement. Là. Tu sais, on n'est pas là, là. C'est vraiment qu'ils dérapent. Puis c'est très psychologique, comme on le dit au début.
Vanessa Daigle, ça prend combien de temps au cerveau à t'envoyer un message quand il considère que tu es rempli là, à satiété?
Bien, la science dit 20 minutes.
J'essaie de trouver comme un moyen. C'est peut-être mon cerveau qui est problématique, qui ne m'envoie pas le signal de satiété quand j'étais au buffet au Mexique. Là.
Mais laisse-toi du temps. Ouais. Tantôt, là, je parlais de l'histoire de l'impulsivité. Là.
Ouais.
C'est que des fois, on est trop activé. Puis je le vois, il y a quelque chose de très inné aussi.
Mais les
là.
Desserts sont là, puis ils t'attendent.
Mais oui, mais ils vont attendre.
Ils sont gratuits. Ouais. Ils t'appellent en plus. Des fois, j'ai l'impression qu'ils me parlent.
Ils crient les
ouais, mais si tu te laisses du temps, dans le fond, notre cerveau, il est constitué en 3 cerveau. Hein? Ouais. On a le cerveau comme qui est impulsif, après on a le cerveau émotif, puis on a le cerveau rationnel. Puis ils vont tous rentrer en jeu, dans le fond, un après l'autre, là, de manière synchronisée. Puis si on agit trop vite, on agit de manière impulsive, émotive, on se laisse pas le temps d'arriver à notre rationnel. Fait que c'est là qu'après on se dit, ben ouais, on se met une carte, pourquoi j'ai mangé ça? Ou j'aime même pas ça, tu sais, Fait que des fois, de se laisser du temps. L'autre chose que tu nommes dans ton fameux buffet aussi, c'est l'environnement.
Ouais.
Plus qu'on est exposé à des aliments de même, plus c'est difficile difficile de résister.
C'est, ça, c'est de leur faute. C'est de leur faute.
Ben
à
oui, autres. Clairement.
Mais c'est l'effet fondu. Là. Quand tu manges une fondue en famille, oui. Là, qui sait qui arrête de manger quand il n'y a plus faim? Tu te lèves et tu te rends compte de la brique que tu as dans l'estomac. C'est tout le temps ça.
Oui, ouais, fait que de diminuer son exposition dans les buffets, à un moment donné, va-t'en.
Boire de l'eau, exemple, un peu avant le repas et pendant le repas.
Ah oui, on entendait ça avant.
Est-ce que ça l'aide? Ça, c'est des fameux trucs de grand-mère.
Ben oui, c'est ça. Prends deux verres d'eau avant de manger.
Les autres, ils nous faisaient prendre une soupe.
Ah, oh, Seigneur!
Ben la soupe, il peut y avoir quelque chose là-dedans. Fait que oui, le verre d'eau, non. Là, dans le fond, le verre d'eau va t'hydrater. Il y en a qui disent que ça prend de la place dans ton estomac, mais tu sais, c'est quand même très vite absorbé de l'eau. Là. Fait que,
c'est pas tant vrai,
à moins que, justement, on dit souvent la soif flirte, la sensation de soif flirte avec la sensation de faim. Fait que si, finalement, t'avais soif, mais ça se peut que t'aies l'impression que ça l'apaise ta faim, mais sinon...
C'est pas si vrai que ça.
Non.
On a déjà parlé de pleine conscience, puis Yann, ça rejoint peut-être un peu tes problèmes, là. Mais c'est quoi la pleine conscience quand on parle d'alimentation? Parce que j'ai l'impression que pour bien du monde, c'est peut-être un peu trop spirituel puis ésotérique.
Ça rejoint mes problèmes d'inconscient, c'est ça?
Tout ça, Yann.
Ben, en fait, on est tous inconscients, je vais te le dire.
Oui, ça, c'est vrai.
Mais la pleine conscience, justement, les gens, ils disent que c'est ésotérique, mais genre, la pleine conscience, c'est juste d'être concentré dans le moment présent plutôt que d'être dans le passé ou dans le futur, tu sais. 99 % du temps, soit on pense à quelque chose qui est déjà arrivé, ou soit on a peur de ce qui, ou on pense à ce qui s'en vient. T'sais, mais on peut-tu juste être là, live, maintenant? Fait que plus qu'on... Puis moi, je dis toujours, c'est comme un exercice, comme d'entraîner ton corps à avoir cet outil-là quand tu vas en avoir de besoin. Fait que si, dans le quotidien, tu n'as pas besoin de méditer, là, genre, va prendre une marche, puis pendant que tu prends ta marche, ben, t'sais, au lieu d'écouter un podcast, au lieu de parler avec quelqu'un, t'sais, va prendre une marche seule. T'sais, préoccupe-toi de la température de l'air, regarde les fleurs, t'sais, sois juste... Fais juste prendre une marche. T'es concentré sur le moment présent, c'est ça. Puis plus que tu réussis à faire ça au quotidien, plus qu'à un moment donné, si t'as l'impression que tu perds le contrôle, justement, tu vas être capable de te ramener dans le moment présent puis de te ressaisir.
D'arrêter de te surstimuler, finalement.
Exactement. Oui, c'est vraiment ça. C'est juste d'être... Dans le fond, c'est juste d'être concentré dans le moment. Là. C'est absolument... Puis il y a vraiment de la science qui démontre que ça, plus que t'es capable, plus que t'es habile à te ramener dans le moment présent, plus que ça a un impact favorable sur tes choix alimentaires et même les crises hyperphagiques.
Moi, j'aime se poser des questions comme ça. J'ai l'impression que c'est je suis dans un cabinet d'un éminent psychologue qui peut m'aider grandement. Puis je suis pas le seul. Là. Il y a plein d'auditeurs qui nous écrivent au 418-971-1021 pour avoir des conseils de notre nutritionniste qui est Vanessa Daigle. Il y a Simon qui dit « Salut Vanessa, moi je fais super attention dans le jour et même au souper, je fais attention et je vois vraiment des différences sur mon corps. Le problème, c'est que juste avant de me coucher, j'ai tout le temps des méga cravings de sucre. Puis des fois, ben, je flanche. T'sais. Puis je veux pas scraper mes efforts du reste de la semaine. Qu'est-ce qui fait en sorte qu'avant de se coucher, on a tout le temps le goût de manger? Puis moi, j'ai eu des... Bon, je n'ai pas eu énormément. J'ai eu des femmes dans ma vie qui se levaient la nuit pour aller grignoter. C'est quoi? C'est le cerveau qui en demande?
Mais c'est qu'il y a tellement de choses là-dedans, tu sais, c'est que ça peut tellement être variable d'une personne à l'autre.
Ouais.
Premièrement, tu sais, il dit qu'il fait attention dans la journée, mais comme, est-ce qu'il y a assez mangé? Parce que si t'as pas assez mangé puis que là, t'arrives pour aller te coucher, mais ton corps va te dire qu'il a besoin d'énergie. C'est quoi l'énergie la plus rapidement absorbée? C'est le sucre. Fait que tu vas avoir un craving de sucre. Après ça, si tu la fatigues, tu sais, est-ce que justement quand t'es fatigué, ben ton taux d'hormones de sérotonine au niveau du cerveau va diminuer. Fait que là, ton corps va t'en demander, puis le sucre a ce potentiel-là. Je vous le disais tantôt, avec le système de récompense qui se stimule au niveau du cerveau.
Ouais.
Fait que là, tu vas te sentir temporairement mieux. T'sais, est-ce que c'est une habitude? Est-ce que lui, il est tellement habitué d'aller manger du sucre avant de se coucher que là, il arrive pour aller se coucher, puis là, puis il se met à penser au sucre. Puis là, ça devient difficile de penser à d'autres choses.
Moi, j'ai un rush de sel. Quand j'arrive, mettons, de ma game de hockey, là, puis j'arrive à la maison, j'ai un rush de sel.
Ça me prend des électrolytes.
Ça me prend des chips. Puis là, puis là, il y a comme frigidaire qui s'en trouve tout seul. Là, tout d'un coup, il y a une lumière qui sort. Puis c'est ma Coors Light qui m'appelle aussi.
Mais là, Yann, as-tu entendu ce que Vanessa dit?
C'est électrolytes. Les électrolytes.
Oh, ouais, ben c'est oui,
ça. Ça, va t'acheter des petits sachets. Là, mets ça dans ton eau, dans le char que tu bois sur le retour. Tu ne ressentiras pas ça.
Mais peut-être tu vas quand même avoir le goût de ta bière.
Oui,
ouais, ça, c'est une possibilité.
Ça, il n'y a pas ça
Mais ça, il y a quelque chose de. C'est ton cerveau qui t'envoie un signal. J'ai besoin de sel pour essayer de conserver le plus d'eau possible.
J'ai une question sur. Ça serait ma dernière concernant l'hyperphagie, mais concernant tout trouble alimentaire. puis on parlait d'alimentation intuitive, puis ça m'a fait penser à la façon dont on est éduqué. Quand j'étais jeune, puis maman, papa, je vous en veux pas, là, mais ça, ça a toujours été comme ça. Finis ton assiette, t'auras pas de dessert sinon. Et est-ce que ça peut jouer dans la relation qu'on développe très, très jeune avec la nourriture?
100%.
Tu seras pas poli si tu finis pas ton assiette quand tu vas chez quelqu'un.
Tellement de personnes qui me le nomment. Là. Je dirais que ce qui revient le plus souvent, c'est le fameux « j'ai vu ma mère être à diète toute sa vie ». Puis là, justement, tu sais, c'est des choses qui restent. Et ça, c'est pas bon. Ou bien, ma mère mangeait différemment. Ou bien, justement, il faut que je finisse mon assiette. Ou le fameux, comme, puis c'est tough en tant que parent de pas aller là, mais de genre, si tu fais telle affaire, je vais te récompenser. Je vais te récompenser, mettons, avec, tu vas avoir ton dessert. Ou bien, tu vas avoir.
On va aller chez McDo.
Ouais, c'est ça. Veux pas, l'alimentation est quand même une récompense, tu sais. Puis ça va toujours l'être, là. T'sais, l'alimentation est quand même associée à quelque chose qui est festif, qui est le fun, tu sais. Fait que oui, ça laisse des traces. C'est quand même dur en tant que parent de pas aller là. Mais tu sais, c'est pas l'idée, c'est de pas aller là jamais, mais pas que ça soit toujours la récompense. Sinon, effectivement, on est en train de créer des comme, ben moi, je me récompense comment avec l'alimentation.
L'association.
Ouais, c'est ça.
Question aussi, Vanessa, par texto. Est-ce que de manger avec des distractions, que ce soit la TV ou le cellulaire ou un spectacle devant nous, est-ce que ça peut avoir un impact sur le fait qu'on ne ressente pas cette fameuse satiété-là?
Ben oui, effectivement, parce qu'on n'est pas concentré sur comment on se sent. T'sais, tantôt, on parlait du pouvoir d'être dans le moment présent, mais quand on fait d'autres choses en même temps, on fait clairement pas ça. Fait qu'on est moins attentif. Fait que si on est moins attentif, ben peut-être... T'sais, peut-être qu'on notre corps nous envoie le signal, mais on n'est tellement pas à l'écoute que nous, on le ressent pas. Puis ça, c'est scientifiquement démontré, là, en fait, qu'on devrait pas nécessairement faire ça. Là.
Qu'on devrait manger à table, se concentrer là-dessus.
C'est ça, exactement.
Le pire, c'est que c'est tellement un plaisir. Là.
Mais tu vas le subir, là, toi, à l'abbaye Saint-Benoît où tu vas aller. Là.
Ah ouais.
Bon, ben tu vas manger à table dans le silence, à côté de nonnes, des sœurs cloîtrées qui regardent leur assiette et qui te regardent pas.
Tu vas là.
Tu vas manger, puis tu vas être concentré, puis tu n'entends absolument rien. Ouais. Moi, je l'ai vécu pendant 3 jours. Là.
3 jours, c'est long. Hein?
C'est long.
Mais ça doit faire du bien.
Mais ça fait du bien. Je m'étais amené assez de lecture, fait que je me suis pas tant ennuyé, là, mais honnêtement, ça a été assez weird de me concentrer sur mon assiette. Je me souviens pas d'avoir fait ça dans ma vie.
Mais c'est ça. Mais c'est un exercice à faire qui peut être intéressant. Oui. Des fois, les gens s'imaginent que c'est ça, justement, l'alimentation intuitive est très mélangée avec l'alimentation pleine conscience. T'sais. On va pas faire, on s'entend, là, on fait pas ça 3 fois par jour.
Non, c'est ça. Mais c'est tellement un plaisir. Tu sais, moi, il y a rien de plus satisfaisant, Vanessa, là, quand je veux, mettons, être chez nous un vendredi soir, là, de passer au DEP puis de manger des cochonneries en écoutant un film ou en écoutant la TV. Ou on dirait que on associe justement...
C'est réconfort.
Oui,
c'est
exactement.
Le réconfort.
C'est des déconnexions qui ne sont pas faciles nécessairement à faire.
Vanessa Daigle, on vous trouve où, Madame la nutritionniste?
Madame la nutritionniste, ben oui. Sur Instagram principalement, là, je te dirais Van Baramba Nutritionniste. Sur mon site web aussi, vdnutrition.com.
C'est toujours un plaisir en espérant te reparler parce qu'on va acquérir des problèmes dans les prochaines semaines. Là.
Assurément.
On compte sur toi pour régler nos problèmes ainsi que les problèmes de nos auditeurs au 418-971-1021. Il y a beaucoup de participation, c'est le fun.
Vraiment.
Merci beaucoup d'être là, tout le monde. Vanessa Daigle, bye bye.
Bye bye.
On fait une courte pause et on vient.